Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime, et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes aussi tout autant passionnée de True Crime. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui et merci d'être avec moi à cette deuxième épisode de la Spooky Season. Je suis tellement excitée, c'est ma saison préférée. Je pense que je le dis vraiment souvent sur le podcast à quel point j'aime l'automne et la saison des frissons. Avant qu'on embarque dans notre épisode, je vais faire notre petit moment de pub un petit peu gossant, mais s'il vous plaît, si on vous achale autant que ça, c'est parce que ça nous aide vraiment beaucoup si vous allez nous donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou peu importe où vous nous écoutez. Aussi, ce qui nous aide beaucoup, c'est que vous interagissiez avec nous sur les réseaux sociaux. Non seulement ça nous aide, mais on aime ça, on aime échanger avec vous, on aime vous répondre, on aime créer du contenu pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller laisser des commentaires à slide dans nos DMs, s'il vous plaît. Maintenant que tout ça est fini, comme on l'a annoncé sur nos réseaux sociaux, dans les prochaines semaines, c'est moi qui vais être seule au micro. Jess prend une petite pause de CSC. Comme vous le savez, Jess a perdu son chien Hagrid. C'est un deuil qui est extrêmement difficile, la perte d'un être cher, et elle est revenue assez rapidement sur le podcast. Je crois que dans son cœur, elle voulait absolument revenir le plus tôt possible, mais la vie lui a dit « Hey, je pense que c'est le temps que tu prennes du temps pour toi et que tu relaxes un petit peu et que tu ralentisses. » Donc, elle a décidé de prendre une petite pause. On le dit, on le redit sur le podcast, ce qui est important, c'est notre santé mentale, notre santé physique. C'est pas nous qui décide quand notre corps ou la vie nous dit « c'est le temps de ralentir un peu ». Mais comme on le dit sur nos réseaux sociaux, on le sait que vous allez nous soutenir comme vous l'avez toujours fait depuis le début de la création de Crime et Cocktail. Et honnêtement, on est tellement reconnaissante de toute cette vague d'amour, de tout ce soutien de votre part. Ça nous touche beaucoup et c'est ce qui nous donne vraiment envie de continuer. Parce que oui, à la fin de la journée, c'est beau d'être passionné, mais ça rend le tout tellement plus agréable et facile quand on a des auditeurs aussi incroyables que vous. Donc, merci, merci, merci. Sur ce, le blabla est fini. On va passer directement au cocktail du jour. Comme j'ai dit tantôt, enfin, la spooky season est à nos portes. Et qui dit spooky season dit cocktail automnal. Je me suis dit que j'allais essayer des espèces de cocktails, des recettes de cocktails qui font sensation sur les réseaux sociaux et vous donner, comme qu'on fait toujours, ma note bien franche. Donc, pour cette spooky season, on commence en force avec une recette qui fait le buzz en ce moment sur TikTok, c'est le pina colada à la citrouille. Pour ma part, moi j'aime vraiment ce mélange-là parce que c'est comme si on prenait le meilleur de l'été et qu'on le fusionnait avec la magie de l'automne. Et c'est un peu comme Best of Both Worlds d'Anna Montana, donc j'ai vu ça, je me suis dit, faut absolument que je le fasse sur Crime et Cocktail. Si vous voulez essayer la recette, vous allez avoir besoin d'un blender. Vous allez y mettre une tasse et demie de glace, 2 onces de jus d'ananas, 1 cuillère et demie à table de purée de citrouille, 3 onces de crème de coconut, 2 onces de rhum, le quart d'une cuillère à thé de cannelle et une pincée de noix de muscade. Aujourd'hui, il n'y a pas de shake, 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 c'est le blender qui va faire tout le travail et une fois que tout est bien mixé, versez votre contenu et là, c'est là que ça devient le fun parce qu'on a essayé quelque chose pour le cocktail du jour, c'est un autre trend qui fait sensation sur les réseaux sociaux. Puis vous nous connaissez à Crime et Cocktail, ça serait pas un cocktail CC sans une petite twist. Donc le verre de notre cocktail aujourd'hui, c'est une citrouille. Quand j'ai vu ça sur TikTok, je me suis dit « wow, ok, c'est sûr que je vais essayer ça ». Je m'étais dit « c'est sûr que ça va marcher, c'est sûr que ça va faire un super de beau cocktail, je vais pouvoir prendre des super de belles photos ». Je vous reviens là-dessus après avoir fini de vous dire la recette du cocktail. Mais bref, videz-moi ça, cette citrouille-là, et remplissez-la de votre mixture de pina colada. Puis vous allez garnir votre cocktail d'automne avec de la crème fouettée, un morceau d'ananas et une feuille d'ananas. Maintenant, mes commentaires par rapport au drink, c'est une recette qui est vraiment volatile parce que, comme vous savez, Jess est allergique aux ananas, donc pour elle, si elle était là aujourd'hui, je lui aurais fait ce cocktail-là, mais au lieu d'avoir mis du jus d'ananas, j'aurais mis soit du jus de mangue ou même peut-être du jus d'orange. J'ai lu que certaines personnes l'essayaient avec le jus d'orange. Je sais pas qu'est-ce qui serait mieux, on dirait que moi je serais plus portée à mettre de la mangue. Mais j'ai fait cette recette-là pour mon chum qui ne boit pas d'alcool, et j'ai remplacé le rhum par de la bière de gingembre. Honnêtement, ça goûtait la même chose que le mien qui avait du rhum dedans. Je dois dire que ma note, c'est 8 sur 10. Parce que honnêtement, moi, je suis pas une grande fan de drinks d'automne, puis avant que vous me garochiez des roches, calmez-vous. Moi, je suis une spooky girl dans l'âme. J'ai juste vraiment de la misère avec la cannelle. Mais malgré ça, même si c'est pas mon épice préférée, un 8 sur 10, je trouve que ça parle de lui-même. La seule chose, c'est que le drink dans la citrouille, je sais pas si c'est mes citrouilles qui avaient un problème, mais ça coulait de partout, de par en dessous de la citrouille. Je sais pas si c'est moi qui ai mal fait quelque chose, est-ce que j'aurais dû comme tapisser l'intérieur de la citrouille avec I don't know what. Donnez-moi votre opinion sur le cocktail, mais aussi, si vous avez fait le cocktail dans une citrouille, dites-moi comment ça s'est passé. Je suis vraiment curieuse, parce que moi, ça a pas été un très gros succès. Là, on a fini par retransvider ce qu'il y avait dans la citrouille dans des verres. Bref, je viens de réaliser que j'ai oublié de vous dire le moment what the fuck de la semaine. Je suis tellement désolée, la gang, j'ai pas... Comme vous le savez, je suis TDAH, et ce matin, je me suis levée trop tard pour prendre ma vivance, parce que j'ai fait de l'insomnie hier, donc je me suis levée quand même un petit peu plus tard aujourd'hui, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc sur ce, cheers et chin-chin. Ça va juste rendre le moment what the fuck de la semaine un petit peu plus le fun avec notre petit cocktail. Mon moment what the fuck de la semaine, il m'est arrivé dimanche passé. Je venais juste d'arriver chez mon copain et j'étais dans mon auto. Moi, je barre tout le temps mes portes d'auto. Dès que je rentre dans mon auto, je barre la porte tout de suite. Et quand que je me stationne, comme j'étais en train de faire à ce moment-là, j'étais stationnée pour prendre mes... et je prenais mes choses pour rentrer dans l'appartement. Je laisse les portes barrées jusqu'à temps que je sorte. Puis là, je suis en train de prendre quelque chose dans mon côté passager, puis je réalise, j'entends quelque chose, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir ma porte du côté conducteur. Là, je me vire de bord à ma gauche, et je vois un homme, assez grand, qui essaie juste de rentrer dans mon auto, côté conducteur. Là, je me dis, what the fuck? Là, je suis tombée tout de suite en mode panique, évidemment, mais surtout en mode agressif. Puis je disais, tu sais, en anglais, je disais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais là, puis tu sais, pourquoi est-ce que tu essaies de rentrer dans mon auto? Puis le gars répondait pas, il faisait juste vraiment agressivement essayer d'ouvrir mon auto tellement que je pensais qu'il allait briser ma poignée. Là, j'ai commencé à vraiment paniquer. Je me suis dit, mon Dieu, j'appelle-tu la police? Puis dites-vous que ça, pendant tout ça, moi, j'ai crié au meurtre, là. Je criais hystériquement de lâcher mon auto, que j'allais appeler la police. Puis à un certain point, je savais tellement plus quoi faire puis quoi dire que je faisais juste crier comme une folle, en espérant qu'ils se disent « Mon Dieu, elle va pas bien mentalement, celle-là, je vais m'en aller, elle est trop folle pour moi, je sais pas. » Puis le gars, il essayait de me montrer son cellulaire, comme si, je sais pas s'il pensait que j'étais son Uber ou quelque chose. C'était tellement bizarre. Puis j'arrêtais pas de hurler, puis j'y montrais 911 sur mon téléphone. Pendant tout ça, il essayait toujours d'ouvrir ma porte d'auto, super agressivement. Maintenant, il a juste arrêté, me regardé. Il a regardé vers sa droite, il a crié quelque chose dans une langue que j'ai pas reconnue, que j'ai pas compris. Puis il y a un autre homme qui a apparu. Puis les deux se sont mis de l'autre côté de la rue, de l'autre bord du trottoir, et m'ont fixé pendant un bon 5 minutes. Puis après ça, là, je me demandais, je savais pas quoi faire. J'ai appelé une de mes amies en paniquant. Puis pendant ce temps-là, les gars sont embarqués dans l'auto qui était... Dans le fond, moi, j'étais stationnée sur la rue. Il y avait une auto blanche en avant de moi et une auto noire en face de cette auto blanche-là. Et les gars sont juste entrés dans cette auto-là et sont partis. Là, je paniquais, évidemment. J'ai fini par rentrer chez moi. J'ai attendu quand même un bon 5-10 minutes parce que j'avais peur qu'ils soient encore là puis qu'ils voient où ce que j'habitais. Je rentre chez moi, puis là, c'est mon ami qui m'a convaincu d'appeler la police parce que même si j'ai beau dire souvent sur le podcast que même si on pense que ça sert à rien d'appeler la police, de l'appeler pareil, c'est là que je me suis retrouvée dans une situation que j'étais comme « Hey, mais j'ai pas envie de déranger la police pour ça ». Dans ma tête, je me disais, je sais que la police va rien faire, puis je veux pas te déranger pour rien. Puis là, je suis embarquée en mode « gaslight ». Avec moi-même. Tu sais, j'essayais de minimaliser la situation, puis si mon ami me dit, même s'il y a rien à faire, au moins, tu vas laisser une trace, tu sais, que ça s'est passé, tu vas rappeler quelqu'un, tu vas l'avoir dit, puis tu sais, si jamais il y a quelque chose qui arrive, bien, ça va être quelque part, cet appel-là. Fait que j'ai fini par appeler la police, évidemment. De un, l'appel 911 a été super désagréable, ça a été vraiment, vraiment... Ça a vraiment pas été le fun. La personne n'écoutait absolument pas qu'est-ce que j'essayais de dire, puis elle arrêtait pas de me couper pendant que je parlais. Après ça, il y a des policiers qui sont venus, il y a deux policiers qui sont venus, il y en a un qui n'a pas parlé du tout. L'autre, tu sais, il m'a écouté parler, puis tu sais, évidemment, je sais qu'eux, ils peuvent rien faire, parce que, comme le policier a dit dans ses mots, il n'y a pas vraiment grand-chose qui s'est passé, fait qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on peut faire. Je sais, je comprends. Moi, mon but, c'était plus, c'est ça, comme j'ai dit, de vouloir me protéger au cas où dans le futur de quoi arrive, ou que si jamais ces gars-là, ils essayent de prendre avantage de filles qui reviennent tard le soir, puis d'essayer de les faire sortir de leur auto pour faire je sais pas quoi. Tu sais, au moins, s'il y a les personnes qui vivent ça appellent, il y a peut-être quelqu'un qui va faire 1 plus 1 égale 2. Puis dire, ah, OK, mais ça fait plusieurs filles qui appellent pour dire que ça se passe. Là, c'est, je vais un peu partout en même temps, là, mais je me suis juste dit c'est mieux d'appeler la police. Puis évidemment, c'est ça. Je l'ai fait. Je savais que ça allait rien faire, mais je me dis j'ai fait ma job. Je trouve ça vraiment dommage qu'il faut attendre avant qu'il se passe quelque chose, pour que quelque chose soit fait. Tu sais, je veux pas dire que les policiers ont pas fait leur travail puis qu'ils ont mal fait leur travail. C'est juste que je trouve ça vraiment dommage que notre système de justice fonctionne de la façon dont il fonctionne. Et surtout, je trouve ça plate de voir où Montréal est rendu. Pour ma part, je suis vraiment en train de tomber out of love avec Montréal. Montréal a toujours été pour moi une ville que j'étais complètement en amour avec, que j'adorais malgré ses défauts. Bref, tout ça pour dire, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les dernières années à Montréal. Je sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour que quelqu'un au pouvoir se réveille puis essaye de faire changer les choses, essaye de protéger les gens qui habitent à Montréal. Faites attention à vous. Dès que vous embarquez dans votre auto, barrez les portes de votre auto. Dès que vous arrivez à quelque part, attendez un peu avant de sortir. T'sais, zieutez les horizons alentour de vous. Ayez toujours quelqu'un qui a votre localisation sur votre téléphone. C'est vraiment dommage, mais à la fin de la journée, il faut qu'on se protège par nous-mêmes parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Donc faites attention, prenez des précautions. C'est vraiment plate de devoir vivre comme ça puis vivre dans la peur. Mais bon, je sais pas si Montréal, c'est le nouveau Gotham. Là. J'espère que non, parce que... Bref, tout ça pour dire, faites attention à vous. Soyez toujours alerte à ce qui est alentour de vous, aux gens alentour de vous. Et sur ce, on va plonger directement dans l'épisode du jour. Comme vous avez pu le voir avec le titre, aujourd'hui, on parle du fameux film Poltergeist. Et pour bien commencer l'épisode, je vais vous expliquer un peu l'intrigue du film. Dans le fond, le film, il y a la famille Freeling qui vit une petite vie tranquille dans une banlieue typique jusqu'à ce qu'ils découvrent que leur maison a été construite sur un ancien cimetière. Rien de bien rassurant là-dedans. Généralement, on n'a pas vraiment envie de vivre près d'un cimetière, encore moins avoir une maison construite sur un ancien cimetière. Dans le film, il y a des esprits complètement furieux qui commencent à envahir leur quotidien avec la petite Caroline au centre des événements paranormaux. Ce qui est fascinant avec Poltergeist, c'est qu'à l'époque de sa sortie en 1982, l'idée que la maison des Freeling soit construite sur un ancien cimetière, c'était assez innovateur. Aujourd'hui, on trouve ça un peu cliché vu qu'on l'a vu et revu dans plusieurs films et séries, mais à cette époque-là, c'était une idée assez choquante et originale qui a vraiment marqué les esprits. Une autre chose que j'aime beaucoup du film Poltergeist, c'est qu'il joue sur des peurs très profondes. D'abord, il y a l'idée de la profanation des morts. Faites juste imaginer ça, un promoteur immobilier qui choisit d'ignorer un cimetière pour y construire des maisons sans déplacer correctement les corps. C'est un manque de respect absolument total pour les morts et ça suscite une horreur presque instinctive. C'est le genre de choses qui dérangent tout le monde, peu importe la culture, sauf évidemment le gouvernement. Eux, ça ne leur a jamais dérangé. Ensuite, ça se passe dans un cadre ultra familier, les banlieues américaines. À l'époque, les banlieues étaient le symbole du rêve américain. Une maison, une belle pelouse, une famille parfaite, le tout loin du bruit et mouvement incessant de la ville, et des cônes oranges. Oui, Valérie Plante, c'est à toi que je parle. En gros, là, c'était l'image de la sécurité et du confort, mais là, le film Poltergeist est venu complètement casser cette image-là en montrant qu'il y avait quelque chose de pourri sous ses fondations. Vous pensez que vous êtes en sécurité dans votre maison de rêve? Poltergeist vient vous dire « pas du tout, ça se peut que vous viviez sur un ancien cimetière et que vous fassiez hanter par des fantômes assez épeurants ». Je veux pas dire que c'était la première fois que le thème des cimetières hantés était abordé dans un film, ou dans d'autres histoires. Il y en a eu des histoires de fantômes et de manoirs gothiques avec des cimetières dans le passé, mais Poltergeist a vraiment été l'un des premiers films à amener cette idée-là dans un cadre moderne, familier et américain. Non seulement ça, mais ce film-là a permis de populariser cette idée-là. Après Poltergeist, on a vu de plus en plus de films et de livres jouer avec le concept de terrain sacré violé, comme Pet Sematary de Stephen King, par exemple. Donc, même si ça peut paraître un peu banal aujourd'hui, à l'époque, Poltergeist a vraiment révolutionné la manière dont on pouvait imaginer l'horreur tout en donnant une nouvelle dimension aux maisons dites hantées. Et c'est pour ces raisons que Poltergeist est un classique du cinéma d'horreur, mais derrière l'écran, il y a une série d'événements tragiques qui a frappé certains des acteurs principaux du film. Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui, les drames qui ont contribué à ce que beaucoup appellent la malédiction de Poltergeist. C'est pas seulement la fiction qui est effrayante ici, les acteurs eux-mêmes ont semblé avoir été pris dans une sorte de malédiction. Dominic Dune, qui jouait Dana Freeling, a été assassiné peu après la sortie du film. Et Heather O'Ward, qui incarne la petite Caroline, est décédée à seulement 12 ans d'une sténose intestinale. C'est presque comme si l'ombre de ces événements-là hantait le film même après son tournage. On va commencer par l'une des tragédies les plus marquantes, la mort de Dominique Dunne, qui, comme j'ai dit, jouait Dana Freeling, la fille aînée dans Poltergeist. Juste après la sortie du film en 1982, Dominique a été assassinée par son ex-petite amie. Elle n'avait seulement que 22 ans. C'est une histoire complètement déchirante. Le 30 octobre 1982, Dominique est chez elle à West Hollywood lorsque son ex, John Thomas Sweeney, arrive à l'improviste pour la convaincre de reprendre leur relation. Dominique, qui avait déjà pris ses distances après des signes de violence, a refusé. Ce qui suit est tragique et me brise le cœur à chaque fois que j'y pense. Sweeney, dans un accès de rage égoïste, a étranglé Dominique dans l'allée devant sa maison. Dominique a été transportée à l'hôpital, mais elle est tombée dans le coma et 4 jours plus tard, sa famille a dû prendre la douloureuse décision de la débrancher. Ce qui rend cette histoire encore plus bouleversante, c'est que Dominique avait un futur prometteur non seulement dans le cinéma, mais en tant que personne. Sa mort tragique a laissé un vide et pour beaucoup, ça a été le premier signe d'une série d'événements sombres autour de la franchise de Poltergeist. Pour ce qui est de la petite Heather O'Rourke, en 1987, Heather a commencé à ressentir des symptômes digestifs assez inquiétants. Les médecins pensent qu'elle souffre de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire, mais pourtant, ses symptômes s'aggravent. Le 31 janvier 1988, Heather tombe gravement malade et elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Le lendemain, Heather meurt à la suite d'un choc septique et son décès survient quelques mois seulement avant la sortie du troisième film de Poltergeist. Imaginez, une jeune fille, une jeune enfant en pleine ascension, la star d'une trilogie emblématique qui décède d'une manière aussi brutale et inattendue. Mais bon, les tragédies ne s'arrêtent pas là. Il y a d'autres acteurs ayant joué dans Poltergeist 2 qui ont également été touchés par des événements funestes. Mais avant de continuer, je veux juste entrer un peu plus en détail sur les deux morts tragiques dont je viens de vous parler. Maintenant que j'ai bien mis la table, on peut vraiment plonger en profondeur sur le meurtre de Dominique Dunne ainsi que certaines morts tragiques reliées à Poltergeist. La mort de Dominique Dunne, c'est une histoire complètement tragique qui a profondément marqué Hollywood et soulevé de nombreuses questions sur la violence conjugale et la justice, et ça mérite d'être discuté plus en profondeur. Donc, Dominique Dunne était en couple avec un chef cuisinier nommé John Sweeney. Leur relation, qui a débuté de manière intense, s'est rapidement détériorée en devenant abusive. Des témoins ont rapporté que Sweeney était extrêmement jaloux et possessif, allant jusqu'à agresser Dominique physiquement à plusieurs reprises. C'est après tout ça qu'elle a fini par le quitter et s'est installée à West Hollywood et ça a dû tellement être difficile. Elle devait tellement être apeurée de quitter cette relation-là et je suis tellement fière d'elle d'avoir réussi à le faire, mais ça démontre encore que même si on dit aux gens de sortir de relations abusives, on le dit tout le temps, c'est là que, en fait, les personnes sont le plus à risque, sont le plus vulnérables face à leur partenaire abusif. Et là, c'est ça, on est rendu à la partie la plus triste de cette histoire. Le 30 octobre 1982, quelques semaines après leur séparation, Sweeney est arrivé à la maison de Dominique pour tenter de la convaincre de reprendre la relation. Une dispute a éclaté à l'extérieur de sa maison au cours de laquelle il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle tombe dans le coma. Un voisin a entendu la bagarre et a appelé les secours, mais Dominique ne s'est jamais réveillée. Elle a été déclarée en état de mort cérébrale quelques jours plus tard et ses parents ont pris la décision de débrancher son appareil respiratoire le 4 novembre 1982. Je veux juste vous le rappeler, là, elle avait seulement 22 ans. Le procès de John Sweeney a été très suivi par les médias, surtout en raison du lien avec le succès de Poltergeist. Ce qui a choqué le public, c'est non seulement la violence de l'agression, mais aussi la suite des événements lors du procès. Préparez-vous la gang, vous allez vraiment être enragés avec ce qui va suivre. Sweeney a été inculpé de meurtre, oui, mais il a plaidé non coupable, affirmant que l'attaque n'était pas préméditée et qu'il avait perdu le contrôle de ses émotions. Parce que oui, là, c'est tellement normal de commettre un meurtre parce qu'on a perdu le contrôle de nos émotions. Après ça, on dit que c'est les femmes qui sont instables. Sentez le sarcasme dans ma voix, s'il vous plaît. Ça m'enrage quand je vois des tueurs opter pour ce genre d'excuses-là. Je trouve ça complètement pathétique et ça me brise le cœur de penser à la famille qui a dû être assise à la cour et entendre la personne qui a étranglé leur fille jusqu'à la mettre dans le coma et la tuer, dire ce genre de choses-là, qu'il l'a fait parce qu'il a perdu le contrôle de ses émotions. Justement, parlant du procès, il a révélé de nombreux détails sur le caractère violent de Sweeney et les abus qu'il avait infligés à Dominique. Mais malgré ça, le jury a décidé de croire en sa version des faits et il a été reconnu coupable, non pas de meurtre au premier degré, mais d'homicide involontaire. Le verdict a été un choc. Sweeney a été condamné à seulement 6 ans de prison, dont 2 avec sursis pour bonne conduite. Il ne purgeait que 3 ans et 7 mois en prison. 3 petites années pour la vie d'une jeune femme. Le verdict a évidemment indigné la famille de Dominique, en particulier son père, le célèbre écrivain et producteur Dominic Doone. Monsieur Doone, qui était lui-même une figure influente dans le milieu hollywoodien, a utilisé sa position pour dénoncer publiquement l'injustice du système judiciaire. Il a écrit de nombreux articles et chroniques dans des magazines et des journaux pour attirer l'attention sur la clémence avec laquelle les affaires de violence domestique étaient traitées à l'époque. Et je vais juste faire une petite précision, si jamais le nom du producteur, écrivain, journaliste Dominic Doone vous dit quelque chose, c'est probablement parce qu'il est lié à l'affaire des frères Menendez et on le voit dans la série Monstres, l'histoire de Lyle et Eric Menendez, dont tout le monde parle en ce moment. Il a vraiment joué un rôle clé dans la couverture médiatique de l'affaire Menendez en tant que journaliste pour Vanity Fair. Il a analysé les détails du crime et exprimé son indignation face au comportement des frères Menendez tout en partageant des perspective personnelle liée à la tragédie de sa propre fille. Son travail a largement contribué à façonner l'opinion publique et à susciter un grand intérêt pour le procès médiatisé. M. Doone était clairement opposé aux frères Menendez. Comme j'ai dit, souvent, il a exprimé son indignation face à leur comportement, à leurs actions, les considérant comme coupables du meurtre de leurs parents. Doone a souvent critiqué leur défense qui évoquait des allégations d'abus physiques et sexuels et il a soutenu que ça ne justifiait pas leur recours à la violence. Sa position sur l'affaire a vraiment influencé la perception du public et a renforcé les sentiments négatifs à l'égard des frères dans le cadre de la couverture médiatique. On dirait, je me répète souvent, je vais dire souvent ça dans l'épisode, mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment l'époque et les traumatismes de Dominic Doone ont pu affecter sa façon de voir le cas Menendez. Mais bon, mon Dieu, je viens vraiment d'ouvrir une canne de verre. On va revenir à nos moutons et se concentrer sur le cas du jour parce qu'il y en a tellement à dire sur le cas des frères Menendez et je veux absolument pas manquer de respect à M. Doone ni aux frères Menendez en survolant leur histoire en 2 lignes de notre épisode d'Halloween. Et si on ne partage pas tous les détails, ça pourrait mener à des perceptions erronées des affaires et c'est absolument pas ça que je veux. Comme on dit souvent, c'est important pour vous, chers auditeurs, que vous ayez accès à l'ensemble des éléments des cas qu'on parle à Crime et Cocktail pour que vous puissiez forger une opinion éclairée en prenant en compte tous les aspects des récits qui sont franchement complexes. De retour au programme principal, le film Poltergeist et la mort tragique de la jeune Dominique Doone. Le public a également été outré par le verdict, c'est pas juste la famille de Dominique, voyant ça comme une autre instance où la justice ne protégeait pas les victimes de violences domestiques. Ce procès-là est vraiment devenu un point de discussion majeur sur les failles du système judiciaire en matière de protection des femmes contre leurs agresseurs et ça a contribué à une prise de conscience accrue sur les dangers de la violence conjugale et a mis en lumière les difficultés auxquelles les victimes sont confrontées pour obtenir justice. La mort de Dominique Doone et la clémence du verdict ont laissé une profonde cicatrice sur ceux qui suivaient l'affaire et elle reste un symbole tragique des limites de la justice même lorsque le crime est aussi clair et brutal. Heather O'Rourke est devenue une figure emblématique du cinéma d'horreur grâce à son rôle dans la trilogie Poltergeist. Comme j'ai dit, elle incarnait Caroline, la jeune fille qui prononçait la fameuse réplique « They're here ». Et son visage innocent contrastait avec l'horreur du film. Cependant, sa vie aussi à elle a été tragiquement écourtée, mais pour sa part, c'est par des complications médicales entourant un mauvais diagnostic. Ce que j'ai pas dit plus tôt, c'est que la mort de la petite Heather O'Rourke aurait pu être évitée. Heather a commencé à montrer des signes de maladie en 1987 alors qu'elle n'avait que 11 ans. Ses symptômes incluaient des douleurs abdominales, des ballonnements et des épisodes de vomissements. Les médecins qui l'ont examinée, comme j'ai dit plus tôt, ont initialement diagnostiqué la maladie de Crohn. C'est une affection inflammatoire chronique de l'intestin. Elle a été traitée pour cette maladie-là pendant plusieurs mois, mais les médicaments ne semblaient pas avoir l'effet escompté, ce qui a alarmé sa famille. En réalité, Heather souffrait pas de la maladie de Crohn, mais souffrait d'une sténose intestinale congénitale. Ça, c'est une anomalie qui rétrécit une partie de l'intestin. Et ce rétrécissement-là a progressivement bloqué son système digestif, ce qui a conduit à une infection et à une septicémie. En janvier 1988, son état s'est brusquement aggravé. Heather a été transportée d'urgence à l'hôpital après avoir fait un choc septique. Les médecins ont réalisé qu'il ne s'agissait pas de la maladie de Crohn, mais bien d'une obstruction intestinale. Le 1er janvier 1988, Heather a subi une chirurgie d'urgence pour réparer son intestin, mais malheureusement, il était déjà trop tard. Elle a fait un arrêt cardiaque sur la table d'opération et malgré les efforts des chirurgiens, elle est décédée plus tard dans la journée à l'âge de 12 ans. Tout comme la mort de Dominic Doone, la mort de Heather a choqué non seulement ses proches et l'équipe de Poltergeist, mais également le public parce qu'elle était encore si jeune et au sommet de sa carrière. Elle était devenue un enfant star très aimé et sa mort a laissé un vide dans le cœur de ses fans. Son décès a soulevé des questions sur les erreurs de diagnostic et la prise en charge médicale des enfants, soulignant la tragédie d'une vie qui aurait pu être sauvée avec un diagnostic plus précis. Son décès a soulevé des questions sur les erreurs de diagnostic et la prise en charge médicale des enfants, soulignant la tragédie d'une vie qui aurait pu être sauvée par un diagnostic plus précis. On va maintenant passer aux autres décès tragiques liés au film Poltergeist. Quant à lui, il était connu pour avoir joué l'un des personnages les plus effrayants du cinéma de l'horreur, le révérend Henry Kane dans Poltergeist 2 The Other Side. Sa performance, ma foi, glaçante est souvent citée comme l'une des plus mémorables de la saga, notamment à cause de l'apparence inquiétante et squelettique du personnage, qui semblait presque surnaturel. Ce qui rend son rôle encore plus terrifiant, c'est qu'il l'a interprété alors qu'il était gravement malade. En effet, pendant le tournage de Poltergeist 2 en 1985, Julian Beck luttait contre un cancer de l'estomac. Il avait été diagnostiqué quelques années plus tôt et malgré des traitements, sa condition s'était détériorée. Beck a continué à travailler sur le film jusqu'à la fin, en sachant qu'il ne lui restait probablement plus beaucoup de temps. Son apparence émaciée dans le rôle du révérend Kane n'était pas seulement due au maquillage ou aux effets spéciaux, c'est en grande partie la conséquence de sa maladie terminale. Peu après avoir terminé le tournage, Julian Beck est décédé le 14 septembre 1985 à l'âge de 60 ans. Sa mort a ajouté une autre couche de mystère et de malheur autour de la franchise Poltergeist, renforçant l'idée que la série de films était maudite. L'engagement de Julian Beck jusqu'à ses derniers jours pour son rôle dans Poltergeist a été salué par ses collègues et il est resté une figure respectée dans le monde du théâtre et du cinéma. Sa performance est d'autant plus poignante sachant qu'il a mis toute son énergie dans ce projet alors qu'il savait que son temps était compté. William Sampson, qui jouait Taylor, le chaman amérindien, lui aussi a connu une fin déchirante. Sampson était connu pour avoir réalisé un rituel de purification sur le plateau pour éloigner les mauvais esprits. C'est dit qu'il a lui-même senti que quelque chose de néfaste se passait sur le plateau et profondément spirituel, Sampson a effectué une cérémonie après avoir senti que le tournage était contaminé par des énergies négatives. Bien que beaucoup aient pris ça à la légère, il y a plusieurs membres de l'équipe qui ont dit que l'atmosphère sur le plateau s'était sensiblement améliorée après cette cérémonie. Néanmoins, quelques semaines après avoir terminé le tournage, William Sampson est décédé en 1987 à l'âge de 53 ans des suites de complications après une greffe de cœur et de poumon. Mais bon, au-delà des morts tragiques, comme si c'était pas assez, il y a plusieurs accidents graves qui ont eu lieu lors du tournage des différents films de la franchise. Pendant le tournage du premier Poltergeist, l'acteur Richard Lawson, qui jouait Ryan, un enquêteur paranormal, a failli être électrocuté. Rien de moins. Pendant une scène où des équipements techniques étaient utilisés, un dysfonctionnement électrique s'est produit et Lawson a reçu une méchante décharge électrique. Heureusement, il a survécu à l'incident. Et c'est même pas l'incident le plus troublant qui s'est produit lors du premier film, parce que celui qui est le plus troublant concerne l'actrice JoBette Williams, qui a failli se blesser sérieusement pendant le tournage de la scène de la piscine remplie de squelettes. Elle devait être immergée dans de l'eau entourée de squelettes pendant une tempête artificielle. Le décor glissant et les conditions dangereuses, donc le vent, pluie et éclairs simulés, ont fait qu'elle risquait de se blesser à plusieurs reprises. L'équipe de production leur a assuré que l'électricité était coupée pour éviter des risques d'électrocution, mais plus tard, l'actrice a révélé qu'elle était complètement terrifiée à l'idée d'un accident fatal durant le tournage. Attachez votre tuque avec de la broche, comme on dit au Québec, parce que ça s'en va pas en s'améliorant. Des blessures mineures comme des chutes, des éraflures et des coupures ont régulièrement été signalées sur le plateau. L'une des scènes les plus mémorables du premier Poltergeist est celle où Robbie Freeling, qui est joué par Olivier Robbins, se fait attaquer par la poupée clown dans sa chambre. Cette scène-là m'a traumatisée quand j'étais jeune, je vais toujours m'en rappeler. J'en parle, j'ai des frissons. Bien que la scène a été chorégraphiée pour que la poupée semble étrangler Robbie, un incident effrayant s'est produit. La corde qui enserrait le cou de l'acteur s'est réellement resserrée et Olivier a commencé à suffoquer, littéralement. Il a tenté de crier pour demander de l'aide, mais l'équipe pensait qu'il était simplement en train de jouer son rôle. Imaginez-vous, là, mettez-vous dans sa peau à lui, comment qu'il devait être apeuré quand tout ça se produisait. Ce n'est que lorsque son visage est devenu rouge et presque bleu et que l'un des techniciens a remarqué qu'il avait vraiment des difficultés qu'ils ont arrêté la scène. Heureusement, Olivier a survécu à l'incident, mais c'est sans aucun doute que ça lui a laissé un énorme traumatisme et que ça l'a laissé un souvenir effrayant à toute l'équipe. Non seulement tout ça, il y a aussi eu des incendies inexpliqués pendant le tournage de Poltergeist 3. Plusieurs incendies ont éclaté de manière inexplicable sur le plateau. À plusieurs reprises, des feux ont pris sans raison apparente, endommageant du matériel de tournage et interrompant la production. Des techniciens pourtant habitués à manipuler des effets spéciaux, ne pouvaient pas expliquer pourquoi ces incidents se produisaient à des moments où aucun élément inflammable n'était censé être utilisé. Tous ces événements, cumulés avec les décès tragiques de plusieurs acteurs principaux, ont contribué à entretenir le mythe d'une malédiction de Poltergeist. Bien que les sceptiques y voient simplement une série de coïncidences malheureuses, d'autres considèrent que quelque chose de plus sombre et inexplicable entourait la production des films. Là, je viens tout juste de vous parler de la célèbre scène de la piscine dans le premier film, celle où Jobet Williams se trouve piégé dans l'eau boueuse entourée de cadavres flottants. Ce qui rend cette scène encore plus effrayante, c'est que non seulement, c'est pas non seulement ce qu'on voit à l'écran, mais bien ce qu'on a appris dans les coulisses par la suite. L'une des rumeurs les plus persistantes autour du film Poltergeist concerne cette fameuse scène. Pendant des années, il a été largement spéculé que les squelettes utilisés dans cette scène n'étaient pas des accessoires en plastique comme on pourrait s'y attendre, mais des véritables restes humains. Je suis vraiment capable d'en prendre en tant qu'infirmière auxiliaire, mais juste m'imaginer en train de baigner dans une piscine avec des vrais ossements humains, le cœur me lève et je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'ai appris cette information-là, je me rappelle juste d'avoir eu un gag reflex automatique. À l'écoute, je vous entends déjà demander, mais pourquoi utiliser des vrais ossements? Ben, selon les sources, c'était simplement une question de coût. À l'époque, il aurait été moins cher de se procurer des vrais squelettes via des fournisseurs médicaux plutôt que de fabriquer des répliques en plastique. C'est une décision pragmatique sur le plan budgétaire, mais qui, en rétrospective, a pris une tournure beaucoup plus sinistre. Quand cette rumeur-là a commencé à se répandre, elle a donné naissance à une véritable légende urbaine autour du film. Pour beaucoup de fans et d'observateurs, cette utilisation-là de véritables squelettes a été interprétée comme la source de la malédiction qui aurait frappé les acteurs et l'équipe de production. Ça fait quand même du sens, là. Après tout, manipuler des restes humains, surtout dans un film sur les esprits et les fantômes, c'est un peu jouer avec le feu. Vous trouvez pas? Certains ont même avancé que c'était une forme de profanation, que les âmes des défunts dont les os avaient été utilisés auraient pu être en colère, cherchant à se venger. Et c'est vraiment avec cette rumeur-là que toute l'espèce d'histoire de malédiction Poltergeist s'est vraiment solidifiée, vu que beaucoup de gens disaient, comme je viens de dire, que les esprits étaient en colère et qu'ils cherchaient à se venger. Et cette idée-là a pris encore plus de poids après les tragédies qui ont frappé les actrices Dominique Dune et Heather O'Rourke. L'association entre ces décès et l'utilisation de vrais squelettes dans le film a créé une sorte de lien mystique renforçant l'idée que Poltergeist n'était pas qu'un simple film d'horreur, mais un projet maudit dès le départ. Les fans, déjà attirés par l'atmosphère étrange du public, ont rapidement adopté cette théorie et les médias n'ont pas tardé à relayer ces histoires. Et c'est au fil du temps que cette rumeur-là a pris une place importante dans l'imaginaire collectif, même si l'utilisation de squelettes humains était une pratique relativement courante à l'époque dans certaines productions et même dans des cours d'anatomie. C'est vraiment dans le contexte de Poltergeist que ça a pris une dimension presque surnaturelle. Chaque discussion sur les malheurs du film revient inévitablement à cette scène de la piscine, comme si ses ossements avaient contaminé la production, lançant ainsi la fameuse malédiction dont on parle encore aujourd'hui. Pendant qu'on est sur le sujet, c'est impossible d'éviter les histoires de phénomènes paranormaux qui se seraient déroulées sur le tournage. En effet, plusieurs acteurs et membres de l'équipe de production ont affirmé avoir été témoins d'événements paranormaux pendant la réalisation du film. Ces récits, qu'ils soient exagérés ou réels, ont contribué à renforcer l'idée que quelque chose de sinistre entourait la production. Après tout, quand on travaille sur un film qui traite d'esprit et de la mort, ce genre d'expérience a de quoi frapper l'imaginaire. Parmi les témoignages les plus connus, il y a celui de Jobette Williams. Elle a raconté avoir ressenti une présence étrange dans sa maison pendant le tournage. Elle disait qu'à chaque soir, après avoir tourné, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle retrouvait les cadres des tableaux sur ses murs légèrement inclinés. Elle les remettait toujours en place, mais le lendemain, il était de nouveau penché, comme si une force invisible s'amusait à perturber l'ordre de son environnement. Évidemment, elle n'a jamais pu expliquer pourquoi ça se produisait. Bien sûr, il y a aussi la scène avec l'acteur Olivier Robbins et le fameux clown dont j'ai déjà parlé, que beaucoup associent à des événements paranormaux. Du côté de l'équipe technique, plusieurs membres ont affirmé avoir ressenti des changements soudains de température sur le plateau, des baisses de température inexpliquées qui donnaient la chair de poule. Certains disent même avoir vu des ombres étranges apparaître dans des coins où personne ne se trouvait ou avoir entendu des bruits inhabituels sans pouvoir en identifier la source. Même si aucune preuve solide n'a jamais été apportée, ces témoignages ont largement circulé et contribué à nourrir la réputation de malédiction du film. Zelda Rubinstein, qui jouait la médium Tangina Barrens dans la trilogie Poltergeist, a vécu une expérience troublante elle aussi pendant le tournage du premier film. Elle a affirmé avoir vu une étrange lumière apparaître autour d'elle pendant qu'elle posait pour une photo promotionnelle. Ce qui rend cet incident encore plus étrange, c'est qu'elle a appris par la suite que la photo avait été prise exactement au moment où sa mère était décédée. L'actrice est convaincue que cette lumière est un signe, une sorte de connexion spirituelle avec sa mère, et l'a profondément marquée. Certains membres de l'équipe technique ont rapporté que des objets se déplaçaient ou disparaissaient de manière inexplicable. Des caméras, des lumières et d'autres équipements se déplaçaient parfois de quelques centimètres ou changeaient de place sans que personne n'y touche. Certains techniciens en sont même venus à éviter certaines parties du plateau, convaincus que des forces invisibles étaient à l'œuvre. Craig T. Nelson, qui jouait Steve Freeling, a également vécu des accidents inexpliqués pendant le tournage. Il a rapporté que des objets dans sa loge se déplaçaient sans qu'il ne les touche. Des livres tombaient des étagères, des objets changeaient de place et à plusieurs reprises, il a senti une présence derrière lui, bien qu'il n'y ait jamais eu personne. J'ai l'impression que ça finit jamais, mais c'est vraiment un rabbit hole cette histoire-là et... Je trouve ça incroyable personnellement qu'on ait encore aujourd'hui accès à autant d'informations malgré toutes ces années, d'autant plus que normalement les gens sont plutôt réticents à partager des expériences paranormales par peur de jugement ou de ne pas être pris au sérieux. Pendant le tournage de Poltergeist 3, plusieurs techniciens du son ont rapporté avoir entendu des bruits inexplicables pendant les enregistrements, des voix chuchotantes, des bruits de pas et des claquements ont parfois été captés par les micros alors que personne n'était présent sur le plateau à ces moments-là. Bref, c'est vraiment tous ces récits de phénomènes inexpliqués qui ont créé une atmosphère fascinante et effrayante autour de Poltergeist. Ça ajoute une dimension presque mythique au film, comme si les esprits représentés à l'écran avaient franchi la barrière entre la fiction et la réalité. Pour certains, par contre, ce ne sont que des coïncidences ou des exagérations issues de l'imagination de l'équipe. Mais pour d'autres, c'est la preuve que le film Poltergeist était bel et bien entouré de forces que l'on ne peut pas expliquer encore à ce jour. Ce qui est intéressant avec ces histoires, c'est que, tout comme la rumeur des squelettes réels, elles se sont amplifiées avec le temps. Que l'on y croit ou non, ces témoignages alimentent l'idée que les acteurs et les techniciens ont vécu bien plus que ce qui était Et dans un film qui traite de fantômes et de malédictions, c'est difficile de ne pas être tenté de croire qu'il pourrait y avoir un peu de vérité derrière les récits racontés. Au fil des années, il y a aussi une autre théorie paranormale intrigante qui a vu le jour, c'est l'idée que le tournage de films d'horreur pourrait attirer des forces maléfiques. L'idée derrière cette théorie-là est simple, quoique terrifiante. En recréant des scènes de terreur, d'invocation de démons ou de fantômes, ou en manipulant des thèmes liés à l'occulte, ces films ouvriraient une porte vers des forces que l'on ne peut pas toujours contrôler et qu'on ne connaît pas. Ça donne l'impression que l'acte même de raconter ces histoires à l'écran pourrait involontairement invoquer de réelles énergies sombres C'est une croyance qui s'est renforcée, ça aussi, avec le temps, à travers plusieurs exemples de films maudits comme The Exorcist, The Omen et bien sûr Poltergeist. Selon certains, c'est comme si ces productions cinématographiques créaient un point d'ancrage pour des forces malveillantes, attirant des phénomènes paranormaux, des accidents ou même des tragédies dans la vie réelle. Le film The Exorcist est aussi un bon exemple pour illustrer l'idée. Au-delà des accidents et des décès qui ont frappé l'équipe, plusieurs ont affirmé que des objets bougeaient d'eux-mêmes sur le plateau ou que des présences étranges étaient ressenties pendant le tournage. L'histoire du film, qui traite d'une possession démoniaque, semble avoir rendu ces récits encore plus crédibles. Beaucoup ont fini par croire que l'occultisme et les thèmes religieux abordés dans le film avaient réveillé quelque chose de réel, attirant les mêmes forces surnaturelles que celles décrites à l'écran. Et évidemment, le tournage de Poltergeist a renforcé aussi ces théories et il n'a pas fallu longtemps avant que le public et les médias adoptent cette idée que représenter la mort, les fantômes et les esprits pouvaient attirer des énergies négatives ou des phénomènes inexpliqués sur un plateau de tournage. Mais la question qui se pose, c'est quelle est l'influence de ces théories sur la perception du public? Pour certains spectateurs, ces récits paranormaux renforcent l'attraction pour ces films. L'idée que l'horreur pourrait déborder de l'écran dans la réalité ajoute une couche supplémentaire d'intensité et de frisson que l'on recherche quand on regarde un film d'horreur. Ça transforme un film de divertissement en une expérience presque mystique ou dangereuse même. On regarde le film avec une conscience que ce n'est peut-être pas seulement de la fiction, ce qui rend l'expérience bien plus immersive et anxiogène. Ces théories paranormales ont également contribué à un certain marketing involontaire autour des films. Plus on parle de phénomènes inexpliqués et de malédictions, plus les spectateurs ont envie de voir ces films pour eux-mêmes. Les réalisateurs et les producteurs en sont bien conscients et certains n'hésitent même pas à jouer avec ces rumeurs pour entretenir l'aura de mystère autour de leurs œuvres. Tout ça pour dire, ces théories ne font pas qu'amplifier la preuve à l'écran, elles transforment l'expérience même du film d'horreur en lui donnant une dimension plus profonde, presque sacrée ou, comme j'ai dit, dangereuse. Que l'on y croit ou non, elle ajoute une touche de réel à la fiction et ça rend ses films encore plus captivants pour le public. Malgré que le paranormal et les histoires de malédiction, ça soit fascinant, à CEC, on aime aussi vous donner un aperçu complet. On va donc explorer les contre-arguments et les explications logiques qui viennent nuancer le récit de la soi-disant malédiction autour des films Poltergeist. Parce que, comme à notre habitude, on veut toujours vous donner les deux côtés de la médaille et en fait, c'est essentiel de se ramener à la réalité. Parce qu'au milieu de toute l'effervescence de la malédiction du film, c'est facile d'oublier qu'il y a eu des victimes qui ont réellement perdu la vie. C'est important de souligner que le meurtre de Dominic Dunes, c'est un événement tragique, mais la question n'est pas est-ce qu'il est lié à une malédiction ou quelque chose de surnaturel ou pas. Avant tout, il s'agit d'un cas de violence domestique, malheureusement bien trop courant. Son agresseur, qui était son ancien petit ami, et leur relation étaient marquées par des abus. C'est un meurtre qui découle d'une dynamique de violence conjugale qui n'a aucun lien avec la production du film Poltergeist. En réalité, de tels événements peuvent se produire dans n'importe quel contexte et bien que cela ait touché le casting du film, ça reste avant tout une tragédie humaine. Pour ce qui est de la mort de la petite Heather O'Rourke, qui est profondément triste, il s'agit là encore d'une série de mauvaises décisions médicales plutôt que de phénomènes paranormaux. Son décès découle d'un diagnostic erroné. Elle souffrait, comme j'ai dit, d'une sténose intestinale congénitale qui est une malformation qui était présente depuis sa naissance et quand ses intestins ont éclaté, ça a provoqué une infection fatale. Oui, c'est absolument tragique, mais il s'agit vraiment de complications médicales mal comprises à l'époque. Et c'est des situations médicales qui peuvent arriver n'importe où, à n'importe qui, indépendamment du contexte dans lequel il évolue. En ce qui concerne les décès de Julian Beck et Will Sampson, ils sont directement liés à des problèmes de santé bien documentés. Julian Beck, quant à lui, souffrait d'un cancer de l'estomac depuis des années avant de participer au tournage de Poltergeist 2. Sa mort, bien que proche du tournage, est due à une maladie diagnostiquée qui n'a pas de lien avec des phénomènes surnaturels et qui était déjà bien présente avant même de savoir qu'il allait participer un jour dans le film Poltergeist. Pour ce qui est de Will Sampson, qui est décédé après une greffe cardiaque qui a malheureusement pas bien évolué, les chirurgies de greffe, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour le corps. C'est un nouvel élément que tu rajoutes à ton corps et souvent le corps le rejette. Donc son décès, il est lié vraiment à des complications post-opératoires qui est un risque très 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 courant dans des chirurgies majeures comme celle-là. Encore une fois, c'est des problèmes de santé qui auraient pu arriver dans n'importe quel autre contexte de tournage ou de vie et non d'une preuve de malédiction. pour ce qui est des accidents de tournage, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents qui se sont produits sur le tournage de Poltergeist, mais c'est des types d'accidents qui sont loin d'être inhabituels dans l'industrie cinématographique. De nombreux films qui ne sont pas des films d'horreur ont connu des accidents parfois mortels sans qu'on parle de malédiction. Et pour revenir une dernière fois sur la fameuse scène avec les squelettes, je ris parce qu'on dirait que j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment la chose qui est la plus parlée, discutée de la malédiction de Poltergeist, c'est vraiment les fameux squelettes qui seraient des vrais restes humains et non des squelettes en plastique. Bien que ça puisse sembler assez macabre aujourd'hui, il s'agissait vraiment d'une décision logistique et non d'une preuve de phénomènes paranormaux. C'était juste une question de coût. Et comme j'ai dit, c'était quelque chose qui était très courant à l'époque et cette pratique-là n'a jamais entraîné d'effets surnaturels ou de malédictions sur d'autres tournages ayant utilisé des squelettes réels. Donc oui, c'est important de garder un équilibre et de se rappeler que le surnaturel n'est pas la seule explication possible, mais là, j'ai fini de faire l'avocat du diable. Vous avez les deux côtés de la médaille et vous faites ce que vous voulez avec l'information que je viens de vous donner. Avec le temps, tous les événements entourant le film Poltergeist ont commencé à prendre un tout autre tournure, notamment grâce à la fascination du public pour le mystère et le macabre. L'évolution en légende urbaine suit souvent un schéma qui est bien connu. Tout d'abord, les faits réels se mélangent à des rumeurs. Ensuite, les médias jouent un rôle crucial dans la transformation des faits en mythes. Les journaux, les documentaires et plus tard Internet ont amplifié ces histoires, ajoutant de nouveaux détails ou laissant planer le doute. Dans les années qui ont suivi la sortie de Poltergeist, ces drames ont commencé à être regroupés sous une même bannière, celle de malédiction. Et à chaque nouvelle mention dans les médias, l'histoire prenait de l'ampleur, devenant plus sensationnelle et alimentant la fascination du public. Un autre facteur, c'est aussi le bouche à oreille. Les histoires de malédiction circulaient d'abord parmi les fans du film, puis elles se sont répandues dans la culture populaire. Mais là, vous allez me dire, c'est quoi la réception culturelle de la malédiction? Comment est-ce que ça l'a marqué l'imaginaire collectif? Comment est-ce qu'avec le temps, ces histoires-là se sont pas atténuées, mais au contraire, accentuées? On va y plonger tout de suite. Chaque fois qu'on voit un film d'horreur étant mentionné dans une discussion sur des événements tragiques, Poltergeist revient toujours sur le devant de la scène. Les récits se sont embellis avec le temps, perdant de leur exactitude historique, mais gagnant en mystère et en frisson. Et finalement, avec les forums de discussion sur Internet, les chaînes YouTube et les podcasts, comme moi aujourd'hui, ces légendes urbaines ont été redynamisées pour un nouveau public. On ne cherche plus forcément à savoir ce qui est vrai ou non, mais plutôt à perpétuer ces histoires fascinantes, entretenant l'idée que le film lui-même est plus qu'un simple produit de fiction, c'est un artefact entouré d'une voile mystique. Et comme j'ai dit plus tôt, c'est un phénomène qui s'est produit avec d'autres films connus comme The Omen, The Exorcist et Twilight Zone The Movie. Ces films qui sont déjà marqués par des récits d'horreur surnaturels sont devenus encore plus troublants à mesure que des incidents étranges ou tragiques surviennent pendant ou après le tournage. Tous ces films-là, comme Poltergeist, ont vu leur histoire amplifiée par la presse, les fans et le bouche-à-oreille. Les légendes urbaines qui entourent les productions ajoutent une couche de fascination pour les spectateurs qui aiment croire que l'horreur peut parfois déborder de la fiction pour s'infiltrer dans le monde réel. Et là, je vous demande, vous, à l'écoute, croyez-vous que c'est pour cette raison que les films d'horreur semblent naturellement entourés de croyances paranormales bien plus que n'importe quel autre genre de film? Mais pourquoi est-ce que ces récits de malédiction et de phénomènes étranges captent autant l'imaginaire du public? Est-ce que c'est une fascination ou une curiosité morbide qu'on a? Pour ma part, je crois qu'une des raisons principales, c'est que les films d'horreur jouent déjà sur nos peurs les plus profondes. En représentant des forces surnaturelles comme les fantômes, les démons et les malédictions, ils nous immergent dans un monde où les frontières entre la réalité et la fiction deviennent floues. Et c'est pas ça aussi qu'on cherche quand on regarde un film, que ce soit un film d'horreur, un film d'amour, un film d'action. On veut que ce soit immersif, on veut être captivé par le film. Donc le public, en allant voir un film d'horreur, cherche à ressentir cette peur viscérale, cet inconfort-là. Mais lorsque des rumeurs de malédiction ou d'événements paranormaux apparaissent autour de la production d'un film, cette peur ne reste plus confinée à l'écran, elle traverse la barrière de la fiction pour entrer carrément dans la réalité. C'est à ce moment-là que ça devient plus qu'une histoire qui nous est racontée, mais un univers de mystère dans lequel on peut littéralement être impliqué. Je crois aussi que l'une des raisons pour lesquelles ces films génèrent tant de croyances et de buzz, c'est qu'ils abordent des sujets, des thèmes qui touchent à l'inconnu, la mort, l'au-delà, les forces occultes. C'est des concepts, bien qu'exploités pour le divertissement, qui sont profondément enracinés dans notre culture et nos peurs collectives. Que l'on soit sceptique ou croyant, l'idée qu'un film puisse évoquer des forces réelles par l'intermédiaire de ces thèmes résonne à un niveau presque inconscient. Le public aime ça penser que les films d'horreur sont plus qu'un simple divertissement, qu'ils sont peut-être le reflet d'une réalité plus sombre, plus mystérieuse. À chaque fois qu'un film d'horreur est lié à des tragédies, la perception du public se transforme. L'histoire racontée à l'écran ne devient plus qu'un élément parmi d'autres dans une saga bien plus terrifiante et effrayante, celle d'une production hantée par des forces au-delà de notre contrôle. Et c'est ça qui fait peur aux gens, je crois, et qui attire autant les gens, c'est de perdre ça, ce que l'humain aime le plus avoir en général, le contrôle. Si on compare la fascination pour les malédictions entourant les films d'horreur à d'autres genres de cinéma, on constate évidemment que ces histoires sont bien moins présentes dans des films de comédie, de drame ou même de science-fiction. Tu sais, c'est pas comme s'il n'y en avait pas eu des événements tragiques dans d'autres productions, comme par exemple le décès de Brandon Lee sur le tournage de The Crow, mais ces événements, bien que tristes et tragiques, n'ont jamais vraiment été interprétés de manière paranormale. C'est véritablement le lien avec les thèmes de l'occulte et de la mort qui donne cette aura de malédiction aux films d'horreur. Pour la dernière fois, je vais le répéter, ce qui est fascinant, c'est que le public continue à chercher ces histoires de malédiction, même des décennies après la sortie des films. I mean, on est en 2024 et j'en parle sur mon podcast à ce jour et je suis loin d'être la seule à le faire. Ces histoires-là deviennent une sorte de prolongement du film lui-même, à mon avis. C'est une légende urbaine qui ne s'arrête pas lorsque le générique final défile. C'est des récits qui permettent d'ancrer l'horreur dans la réalité, offrant au spectateur l'illusion que le mal pourrait vraiment exister au-delà des caméras. En fin de compte, les films d'horreur créent une sorte de symbiose entre fiction et réalité. Les tragédies réelles et les phénomènes inexpliqués renforcent l'immersion des spectateurs. Et c'est cette combinaison unique de thèmes effrayants et d'incidents réels qui fait que les films d'horreur continuent de susciter tant de croyances paranormales et captivent notre imagination bien au-delà de leur sortie initiale. Ouh, ça en a été un gros aujourd'hui! Je voulais vraiment prendre un moment pour vous dire un immense merci. Encore une fois, votre patience et votre soutien signifient énormément pour moi alors que j'explore ce nouveau chapitre à la recherche de mon propre ton de voix. J'ai l'habitude d'animer ce podcast à deux avec cette belle dynamique-là d'équipe et c'est vraiment un défi de me lancer seule, même si c'est pas pour la vie, c'est quand même pendant quelques semaines et il faut quand même que j'affronte ce défi-là par moi-même. C'est aussi un moment qui est excitant, une opportunité de grandir et de connecter avec vous d'une nouvelle manière et j'en suis super reconnaissante. Encore une fois, c'est pas pour la vie, c'est pas définitif, c'est pour quelques semaines seulement, mais vos encouragements et votre écoute font toute la différence et c'est grâce à vous que j'ose avancer par moi-même toute seule. Merci d'être là, merci d'être patient et de continuer de partager cette aventure avec moi. On va terminer avec notre fameuse tradition à Crime et Cocktail. Je vais vous donner un petit teaser pour l'épisode de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on y va avec l'épisode 90 qui va être un épisode spécial Zodiac et ça va être le tour de la Vierge. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Crime et Cocktail. Cheers, guys, et chin chin!